se reconnaît en écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hygiène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, CO2 Mon Amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller vite avec aujourd'hui Michel Thomas et Alain Instam à la technique, assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinazas et Valérie Ayestaraï qui réalisent l'émission. Une petite humeur, allez, on y va. Ma chérie. Pendant des années, je n'ai rêvé que de toi. Je te bichonnais, te shampouinais comme au premier jour. Bref, c'était le grand amour. J'étais dopé à la testostérone, pire qu'un vainqueur du tour. Tu comblais ma virilité. Mais même les enfants étaient jaloux, penses-tu? Une pièce de la maison rien que pour toi, alors que dormaient deux dans la même chambre. Souviens-toi, la belle époque, pour te faire de la place, combien a-t-on éventré de quartiers dans les villes, rasé de vieilles bicoques, sacrifié des berges, de fleuves, de jardins? Et toi, en bonne citoyenne bien dressée, tu nous le rendais bien. Tes accidents en pagaille, tu faisais grimper le PIB, eh oui. Certes, dans la journée, tu nous encombrais un peu les rues quand même, eh oui, puis 10 mètres carrés de terrain en ville, alors que 95% tu restais immobile, et quand tu sortais ton gros cul d'une tonne 5, c'était pour faire 500 mètres et lâcher le petit 20 kilos devant le portail de l'école. Eh oui. Rappelle-toi, même au Grenelle de l'environnement, on a pensé à toi, avec une formule alambiquée qui permet de te construire toujours plus d'autoroutes privées dans le pays d'Europe qui bat déjà tous les records. Mais ma chérie, je dois le dire, tu as fait d'énormes progrès. Ah bah oui, ça, tu pollues et tu consommes, mais beaucoup, beaucoup moins. Alors quand même aujourd'hui, on te repousse parce que tu n'as plus la cote en ville. Ton parcours est semé de voies pour ces sales bêtes de cyclistes écolos, de ralentisseurs, de péages, de limitations en tout genre. Mais rassure-toi ma chérie, nous sommes encore très accros. Simplement, tu ne seras plus notre objet, mais on sera toujours le tien. Demain, on ne t'achètera plus. On te partagera. Oh oui, je sais, c'est affreux. On te louera. Alors pour te faire encore désirer, tu nous aguiches cette année, tu t'électrises, tu te promets de presque tout résoudre d'un coup de baguette magique au lithium-ion. Oubliez le CO2. Bon d'accord, si tu roules à l'uranium, il y aura quelques déchets qui s'entasseront dans le sous-sol du désert de la Meuse pendant quelques millénaires et puis c'est tout. Ou bien peut-être ton sourire deviendra-t-il un jour solaire, éolien, marée moteur, que sais-je? En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour te rendre hommage, porte de Versailles, eh bien tes amoureux sont cohérents. Ils continuent à venir en voiture. Alors depuis 2 jours, c'est un embouteillage à tous les étages. Mais avec un petit plus quand même, car bien isolé dans ton habitacle pollué, on peut écouter France Inter en silence. Au sommaire de ce magazine, étranger avec Jean-Marie Pelt, nous partirons au Costa Rica. Et puis en France, tenez, une page de pleine nature.
Sur la partie sommitale de la Maladière, c'est le pays de la myrtille. Et ça pousse au milieu des brouillères, hein, se mélanger. Mais c'est dur, hein, dans la montagne. Il faut trimer. Hein.
Et puis là-bas, vraiment, la voiture est indispensable. On sera donc dans les Monédières, dans le Limousin en Corrèze, avec la Myrtille et son environnement. Et puis, il y aura aussi un agenda de CO2 Mon Amour extrêmement fourni, avec entre autres des fraises en hiver. Mais on va donc débuter, comme nous le faisons maintenant depuis le mois de septembre, avec l'actualité de la semaine, avec Arnaud Gosseman, qui est avocat en droit de l'environnement, maître de conférence à Sciences Po, que l'on retrouve régulièrement pour décortiquer un peu l'actualité. Arnaud Gosseman, bonjour.
Bonjour Denis.
Arnaud Gosseman, on va parler des OGM qui reviennent tout à fait régulièrement sur le tapis, avec José Bové qui a fait parler de lui.
Oui, tout à fait. Il a organisé une conférence de presse au Parlement européen, puisque vous savez qu'il est eurodéputé pour Europe Écologie là-bas. Et il a fait parler de lui cette fois-ci, non pas parce qu'il aurait fauché un champ d'OGM, mais il a fauché par contre la présidente de l'EFSA. Alors qu'est-ce que c'est que l'EFSA? C'est l'Autorité Européenne de la Sécurité Alimentaire. C'est un organisme scientifique qui donne son avis sur les demandes d'autorisation d'organismes génétiquement modifiés. En général, cette autorité donne des avis favorables à l'autorisation des OGM. C'est un peu la bête noire des écologistes. Et là, José Bové a levé un lièvre puisqu'il a remarqué que l'actuelle présidente de cette autorité avait été avant une salariée d'une organisation qui faisait du lobbying justement pour les OGM.
Ça fait désordre.
Ça fait un petit peu désordre. Alors ce truc-là s'appelle toujours, j'imagine, l'Institut international pour les sciences de la vie. Et ce que lui reproche José Bové, c'est de ne pas l'avoir dit au moment où elle a été élue à la tête de cette autorité européenne de sécurité alimentaire. Donc effectivement, ça fait désordre. La Commission européenne, pour l'instant, défend un peu cette dame, Madame Baratti, mais il est possible qu'effectivement, elle perde son siège.
Alors toujours sur l'actualité et sur le même sujet, la Commission européenne s'affronte aujourd'hui avec la France sur la question des conditions d'autorisation de nouveaux OGM.
Alors oui, vous savez que Jean-Louis Borloo a beaucoup travaillé sur les OGM. Au moment du Grenelle de l'environnement, il avait obtenu un moratoire sur l'OGM Mont 810, développé par la société Monsanto. Un petit peu plus tard, lorsque la France présidait l'Union européenne, fin 2009, il avait aussi obtenu une réforme du texte actuel, de la loi actuelle sur les OGM, la loi européenne, votée en 2001. Il avait obtenu qu'on entame un processus de révision. Alors le problème, c'est que la Commission européenne a mis une proposition de révision de ce texte sur la table qui ne plaît pas du tout à la France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Commission européenne en a marre de se faire taper sur les doigts au motif qu'elle serait pro-OGM et qu'elle autoriserait un peu trop facilement. Donc ce que propose la Commission...
Que chaque État se débrouille.
Exactement. C'est vous en avez marre que j'autorise, eh ben c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui, territoire par territoire, allez ou non autoriser les OGM. Ce qui veut dire que les États ne pourraient plus pratiquer le double discours contre les OGM quand ils sont chez eux, pour les OGM à Bruxelles. Ça plaît pas aux écologistes, on les comprend, parce qu'en réalité, c'est aussi un moyen pour la Commission de donner systématiquement des autorisations. Et ça sera très dur juridiquement pour les États de revenir sur cette autorisation sur le territoire national. Donc aujourd'hui, il y a un sacré affrontement. La France est contre la proposition de la Commission. Et effectivement, on attend une position de tous les États.
Alors on va passer à un autre sujet. C'est le projet de loi de finances qui vient d'être présenté au Conseil des ministres. Et là, on parle évidemment d'un coup de rabot sur les niches fiscales, mais niches fiscales vertes.
Alors vous rappelez avant, lorsqu'on parlait des crédits d'impôt pour acheter des panneaux solaires, on disait que c'était un levier de croissance verte. Ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, on ne parle plus de levier de croissance verte, on parle de niche fiscale qu'il faut raboter, voire même bousiller. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, effectivement, la filière du solaire photovoltaïque est un petit peu chahutée. Elle a subi une baisse de 42% des tarifs d'achat lorsque vous vendez votre électricité à EDF. Vous la vendez maintenant moins cher à EDF, ça rapporte un petit peu moins. Et le crédit d'impôt développement durable lui-même vient d'être baissé de moitié. Il passe de 50 à 25%. Alors, ce que reprochent les opérateurs au gouvernement, c'est pas tellement de baisser ces incitations fiscales, c'est de le faire par secousse, c'est de le faire de manière assez brutale, sans concertation et sans planification.
Donc, il n'y a pas de visibilité tellement pour les gens, quoi. Qui veulent investir.
Pour tous ces jeunes ingénieurs qui aujourd'hui montent des PME qui veulent se lancer dans l'énergie solaire plutôt que d'aller travailler dans le nucléaire, aujourd'hui il faut qu'ils aient une visibilité sur 3-5 ans. Aujourd'hui on a une visibilité sur quelques semaines, c'est ça qui fait désordre.
C'est la fin du Grenelle avec cette histoire qui était déjà pas très très en point donc...
Alors effectivement, est-ce que c'est une nouvelle marque de la victoire de l'écolo-scepticisme, le fait que l'État recommence à séparer écologie et économie, le fait qu'on parle du coût du solaire plutôt que de parler de la création d'emplois, de l'apport pour l'environnement, des tonnes de carbone évitées, hein, ce vocabulaire a changé. À titre personnel, je ne pense pas que ça soit la fin du Grenelle. Avant le Grenelle, il n'y avait pas du tout de crédit d'impôt. Aujourd'hui, il y en a moins un, certes, un petit peu plus petit, mais il est quand même là, vert à moitié plein.
N'avons-nous que des mauvaises nouvelles ?
Non, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même. Il y a aussi des bonnes nouvelles, c'est que malgré tout, il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent sur le secteur du solaire photovoltaïque. Il y a plus en plus de jeunes qui veulent s'orienter dans les diplômes, qui parlent d'environnement et qui veulent ensuite travailler dans ce domaine-là. On voit aussi dans les sondages que les consommateurs de plus en plus sont attentifs à l'étiquetage carbone, recherchent des produits de qualité et sont soucieux de ne pas faire manger n'importe quoi à leurs enfants. Je dirais qu'il ne faut pas juger le succès du Grenelle uniquement à ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Dans la société française, on parle d'environnement et on continue à en parler.
Merci à nos gossements et on vous retrouve très bientôt. Direction le Costa Rica avec Jean-Marie Pell, ce sera juste après les bons baisers de Marseille de Moussu.
À l'encre bleue d'un vieux stylo, au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuages, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vent et d'odeur du rivage. À l'encre bleue oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soir au creux du lit on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance à l'encre bleue d'un vieux stylo. Au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y peux rien, tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. Si tu pouvais tout lâcher, je partirais te chercher, te ramener au pays des collègues. À l'encre bleue d'un vieux stylo, au bord de l'eau, je t'écris un mot.
Le bateau, et on va s'envoler pour retrouver Jean-Marie Pelle. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Direction le Costa Rica, petit paradis vert. Donc nous sommes entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique.
Oui, alors ce petit pays fait beaucoup parler de lui dans le domaine de l'écologie parce qu'il a des caractéristiques tout à fait intéressantes. D'abord, c'est vraiment un paradis de la biodiversité. Il y a à peu près autant d'espèces dans le tout petit Costa Rica que dans toute l'Europe de l'Ouest. Ça, c'est déjà une chose tout à fait surprenante. Et les Costa Ricains en sont conscients. Oui. Ils en sont conscients. Ils ont joué à fond le jeu de Rio sur la biodiversité. Ils ont passé des contrats avec des entreprises pour que les plantes qui viennent de chez eux ne soient pas piratées et qu'elles puissent ramener des royalties au pays et à ceux qui en connaissent les propriétés. Alors c'est comme ça que le Costa Rica a émergé dans la conscience écologique internationale. Mais quand on regarde de près ce qu'ils font, alors on s'aperçoit qu'ils sont dans une sorte de logique. Par exemple, ils ont une centrale électrique qui fonctionne par géothermie, qui va chercher de l'eau chaude à 220 degrés à 3 km de profondeur, et qu'ils ont installé il y a déjà 15 ans. Oui. Alors qu'on commence à se dire que la géothermie pourrait être un atout important, et c'est très vrai pour le développement durable. Il y a un projet en cours en Alsace dans ce domaine, mais très modeste. Eux, ils y ont été à fond très vite, très tôt, tout de suite. Alors voilà une réalisation tout à fait intéressante. Et puis alors, ils ont aussi la taxe carbone depuis longtemps.
Ah.
Alors, ils prélèvent une taxe, je crois que c'est de l'ordre de 3% sur les carburants fossiles, sur le diesel, l'essence, etc. Mais ce que je trouve formidable, c'est ce qu'ils font de la taxe carbone. L'argent qu'ils récupèrent, ils le distribuent à des fermiers pour que ces fermiers puissent être de bons gestionnaires des forêts tropicales. Donc, au lieu de déboiser, les fermiers reboisent. Et ils sont passés de quelque chose comme 20% à peu près de zones boisées dans leur pays il y a 35 ans, 30 ans, à quelque chose comme la moitié du pays. Donc voilà un endroit où le monde tropical se régénère et se reconstitue. Et c'est quand même tout à fait intéressant.
Et puis c'est quand même un petit havre de paix, parce qu'on est quand même dans une Amérique centrale qui est en proie donc à la violence, qui est en proie à la misère. Et l'écologie, l'éducation, le rôle des femmes, la santé sont des priorités.
Oui, alors ils sont dans une sorte de logique qui est impressionnante. Il y a donc ce socle de la nature que nous venons d'évoquer. Ils ont des parcs nationaux aussi, beaucoup de parcs de réserves. Et puis il y a aussi un socle de culture costaricaine. Ils ont une culture qui leur est tout à fait particulière en matière de santé, puisque vous l'évoquez. Eh bien, la santé, elle est gratuite. Et il paraît que les Américains, qui, eux, ont une santé qui leur pose d'effroyables problèmes, et quand on veut réformer le système de santé américain, on prend des risques, ce qu'Obama a fait, ce qui se retourne contre lui, c'est un homme bien, et le pas bien se défend, eh bien, ils ont un système de santé gratuit. Il y a des Américains qui viennent se soigner chez eux. Et je lisais que le grand hôpital de Saint-José, c'est la capitale, pour qu'il soit gratuit, ça marche avec des subsides tout à fait inattendus. Et l'hôpital a créé un parc de loisirs. Et le parc de loisirs rapporte pas mal d'argent et ça sert à soigner les gens. Je trouve ça terriblement astucieux. Parce qu'en principe, un parc de loisirs, ça sert à les abuser, mais ça ne sert pas à les soigner. Oui. Et bien chez eux, si, le parc de loisirs sert à les soigner. Et ça, c'est formidable. Alors, ils ont aussi l'idée que les femmes peuvent être bonnes en politique et bonnes dans les affaires. Alors, ils ont cette idée depuis longtemps. Et leur président actuel va probablement être remplacé bientôt par une femme. Et alors, les proportions, je ne les ai pas en mémoire, mais sont très importantes entre les femmes au gouvernement, les femmes dans les différentes instances. Ce n'est pas latino, ça. Dans le monde latino...
C'est 40% de femmes au Congrès.
Oui, vous vous rendez compte, nous, on en a pas 20%, nous. Oui. Alors, dans le monde latino, c'est très original. Parce que dans le monde latino, il y a quand même un certain machisme latent qu'on connaît bien. Bon, alors voilà encore un point sur lequel je trouve qu'ils sont tout à fait intéressants. Alors, ils sont intéressants encore sur un autre point. Ils n'ont pas d'armée. Mais ils n'ont pas d'armée depuis 1948. C'est-à-dire que pendant toute la période de la guerre froide, Est contre Ouest, ce tout petit coin de l'Ouest a joué la paix 30 ans avant que le communisme s'effondre. Ce qui est étonnant aussi. Bon, non seulement ils n'ont pas d'armée, mais ils ont une université de la paix. Ça, c'est une institution que nous ignorons complètement, qui est complètement étrangère à la culture française. Nous ne savons pas que les Nations Unies font fonctionner plusieurs universités de la paix dans le monde où on apprend comment on négocie pour la paix. Ils ont une université pour la paix qui a d'ailleurs été fortement soutenue par Kofi Annan, où il y a des professeurs qui viennent de tous les pays du monde. Il y a un professeur français d'ailleurs, aussi une femme particulièrement, qui vient de Rennes. Et alors, ils prennent les conflits et puis ils décortiquent à fond le conflit pour voir comment on peut agir. Et c'est comme ça que les Nations Unies interviennent pour remettre de la paix dans les conflits, pour désamorcer les conflits. Et ça, on ne le sait pas. Et c'est quand même très important. Ça devient une science. C'est la science de la paix. C'est très beau. Et tout ça, c'est un tout petit pays. Ils sont 4 millions d'habitants seulement. Mais ils ont un regard à l'est, un regard à l'ouest, puisqu'ils sont sur l'Atlantique et sur le Pacifique. Et ils sont dans une région où il n'y a pas la paix. Parce que les petits États d'Amérique centrale se portent au plus mal. Enfin, le Guatemala, c'est une catastrophe. Il y a la drogue, il y a la criminalité organisée. Bon, mais eux sont un petit havre de paix. Vous allez me dire, alors c'est le paradis. Mais il semble que non. Alors, il paraît que les routes sont dans un état lamentable, qu'il y a plein de fonctionnaires et qu'il y en a trop. C'est pas tout à fait le paradis, non. Mais c'est intéressant.
Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie, donc, pour cet éclairage sur le Costa Rica. Puis on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Et on va se faire à présent un petit tour du côté des Monédières, oui, dans le Limousin, et manger des myrtilles, et oui, avec Cheryl Crow. Je vais laisser chanter, là ? Oui, oui, c'est bien, je sens qu'elle est au point, là.
C'est beau ce petit coup à la fin là. Voilà. Donc c'était Muriel Pérez, non pas qui chantait, mais qui a choisi ce disque de Sheryl Crow. Et après le Costa Rica, ah, on va revenir. Là, vous voyez, vraiment grand écart aujourd'hui. Oui, on traverse les océans pour se retrouver dans le Limousin.
Sur la partie sommitale de la Malédière, c'est le pays de la Myrtille.
Oui.
La Myrtille, elle aime bien les sommets, les endroits bien drainés. Et ça pousse au milieu des bruyères, c'est mélangé. Enfin, au milieu de la calune. Mais c'est dur, hein, dans la montagne. Il faut trimer. Hein.
Oui, et vous êtes dit, agriculture de montagne, ça va être quand même très compliqué. Et fort heureusement, en France, il y a quand même des subventions dans ce domaine. Mais vous êtes dit, produit de transformation, qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous aviez ce petit or bleu-noir qui est à nos pieds, parce que c'est la période de la récolte, et ce sont donc les myrtilles.
La myrtille, c'est une plante pérenne, donc on n'a rien à faire. C'est ce qu'on appelle du végétal spontané.
Oui.
Je joue la barrière, parce que là, on entre dans un parc où il y a des ânes, normalement.
Bah oui.
Et si je referme pas...
Bah, ils vont se tirer.
Ils vont se tirer. Ils vont aller manger les tartes aux myrtilles.
Oui, ils
aiment
ça.
Donc au départ, là, dans la monnaie le... bon, il faut faire l'élevage, évidemment, parce que l'élevage, ça donne tous les ans, on produisait des agneaux, et voilà. Donc ici, c'est le Limousin, la brebis limousine, qui est très bien adaptée aux landes, et qu'on a adapté en élevage extensif, plein air. Et puis, après, on s'est dit, oh, on va pas y arriver avec ça, parce que c'est quand même très dur ici. L'hiver est très long. On s'est dit, on va exploiter la myrtille, puisqu'elle y est.
Ouais.
Déjà, elle était ramassée, mais on s'est dit, on va lui donner une valeur ajoutée, ce qu'on appelle.
C'est donc notre page nature. Nous allons dans le département de la Corrèze, dans le Limousin. Alors, on n'est pas très loin de Trégnac, de Chaumeil, du Sucomay, si vous connaissez. Donc, dans le massif des Monédières. Un coin, mais alors tout à fait tranquille, un coin de silence pour les loups autrefois, ils y étaient bien. Pour les brebis limousines, les truites, les hêtres, les landes et les myrtilles. Alors, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les bleuets géants américains, hein, qui ont été introduits, donc hybridés. Non. Là, on est vraiment sur la myrtille sauvage de chez nous comme il faut. Et donc, on va rencontrer Brice de Guillaume, qui est agriculteur, originaire des lieux. Un homme qui est tout à fait libre dans sa pensée, dans sa parole, dans son action. On va dire que ses seuls patrons, parfois, c'est l'administration européenne et française et, bien sûr, le climat. Donc, il vous expliquait comment vivre ici avec cette valeur ajoutée, avec cette myrtille qui pousse comme elle rigole, là. Et puis, elle a envahi donc ces monts de lumière. C'est une des origines de ce nom des monédières. Ça peut être mont de lumière, ça peut être mont des érelles, le mont des monnayeurs aussi, le monédaire. Enfin bon. Et vous allez respirer parce qu'ici, c'est pas la porte de Versailles. On est à 800 mètres d'altitude. Il y a de la calune, de la bruyère cendrée, des fougères, des abeilles. Et donc, c'était l'été, il y a quelques semaines. On va regarder le mont de lumière avec Brice de Guillaume.
C'est un site très beau et c'est un écosystème bien particulier. C'est ce qu'on appelle maintenant un habitat remarquable et à protéger. Et ici, c'est un site Natura 2000. On va se rapprocher de la cascade, le bruit est tellement beau. Là, il y a très peu d'eau. Mais l'hiver, vous ne pourriez pas traverser en botte. Vous auriez l'impression d'être entraîné dans la chute d'eau, tellement l'eau est haute et sort vite. L'habitat à conserver, ici, c'est la lande, ce qu'on appelle la lande sèche. Lande à calune et lande à myrtille.
Ouais.
Et ça, ce travail-là, on le fait déjà depuis 30 ans, nous. Parce qu'il y avait déjà eu des efforts des collectivités pour conserver ça. Et plutôt que de le défricher, faire des prairies, etc., on a gardé la lande pour exploiter la myrtille et pour avoir des surfaces pour nourrir les brebis.
Alors que ça allait plutôt à contre-courant de ce qu'on faisait à l'époque.
Oui, à l'époque, la mode, c'était pas ça. La mode, c'était produire.
Oui.
Mais déjà, dans les années... 85, sur la région du Limousin, il y avait un plan régional de protection de l'environnement, il y avait des efforts qui ont été faits, il y avait déjà des crédits. Et puis bon, là maintenant, le problème c'est qu'il n'y a plus de crédits.
Oui.
La France s'est engagée dans la biodiversité.
Oui.
Elle a proposé à la Commission européenne une liste d'habitats à conserver.
Tout à fait.
Que la Commission a accepté. Donc c'est lancé, maintenant il faut suivre. Bon, mais on y arrivera forcément parce qu'il y a... je crois, 9% de la surface française qui est en Natura 2000.
Oui.
C'est considérable. Le jeu en vaut la chandelle, parce que le coût, bon, pour faire grossièrement, le coût, c'est à peu près 300 euros à l'hectare, sachant qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. C'est grand, un hectare, à entretenir. L'effort, 300 euros pour la collectivité, c'est pas énorme. Mmh. Là, il y a une très belle hêtraie qu'on a conservée, qui fait une douzaine d'hectares. Ouais. Ce qui se passe ici, c'est que l'arbre dominant, c'est le hêtre. Ouais. Il y a un peu de chêne, il y a un peu de bouleau, il y a un peu de ceci, il y a un peu de cela, mais les chênes, bon, souvent, ils souffrent ici. Hein. Le terrain n'est pas assez bon. Il y a des variations de température qui sont trop fortes. Il s'abîme. Il attrape même des maladies. Par contre, le hêtre est d'une vigueur extraordinaire. Il arrive à dominer. Si on a une faiblesse sur le chêne, hop, il prend la place. Ça,
c'est... On est accompagné par les jeux des chênes, justement.
C'est une très belle allée de chênes.
Allez.
Très ancienne, ça a sûrement dû être planté par...
Bon, j'en mets votre clôture. Ah oui.
Mais ici, bon, la terre est bonne. On dit que bon, on peut mettre que des résineux, mais c'est pas vrai. La terre est bonne. Ici, on a quelques beaux spécimens assez rares. Un pipi de farlouze, un boulevent, on a de beaux busards. C'est pas très riche parce que le terrain est pauvre. Granitique pauvre, y a pas, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de gibier.
Et là, on va sortir pour arriver justement sur les terrains à myrtilles.
On va prendre à gauche, là, c'est le chemin, cette petite travée, là.
Alors, on prend des chemins qui sont jalonnés de croix, très souvent un peu partout. Alors, évidemment, c'est des croix granitiques, parce que là, il suffit de regarder, hein, on est sur du granit. Et on rappelle quand même que les Menédières, c'est un ensemble d'une trentaine de puits, quoi, de monts, c'est ça, c'est
un... Oui, on appelle ça les puits, ici,
oui.
P-U-Y, évidemment, et, ou des sucs. Le point de vue le plus haut, baptisé Sucomé.
Oui.
Mais bon, c'est des appellations qui peuvent être un petit peu récentes.
Mais ça rappelle le volcanisme, quoi qu'il arrive.
Oui. Bon, c'est du granit, essentiellement, ici. Du bon granit, d'ailleurs. On fait de belles constructions. Les maisons sont belles.
Oui.
Moi, j'avais toujours pensé qu'ici, il y avait des moines. Mm-hmm. Il y avait des lépreux. Je pense qu'il y avait, dans le cadre des chemins de Compostelle, des chemins réservés aux malades contagieux.
Oui.
Et essentiellement, peut-être des chemins de retour. Parce qu'il ne les laissait pas partir. Peut-être qu'il pouvait choper la lèpre en cours de route.
Donc il y avait le chemin des gens sains et le chemin des gens qui étaient malades.
Puis dans mon imagination, peut-être délirante, j'ai pensé qu'on pouvait, à l'époque, soigner la lèpre avec la myrtille. C'est pas beau, ça?
Ah, bien, bien sûr.
C'est le sujet de mon roman.
C'est bien. Donc, amis lépreux qui nous écoutez, venez là, gavez-vous une myrtille.
Si vous avez un problème de lèpre, essayez la myrtille.
Oui, c'est ça. C'est vendeur tout de suite, votre affaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Alors, on passe...
Ça, c'est un passage aménagé. Vous montez et vous redescendez de l'autre côté.
Allez!
Savoir apparaître les myrtilles.
Ah voilà. Oui, parce que là il nous faut de la lumière. On sort du bois,
bien sûr.
Sinon, alors c'est le coin à Cèpes, à Girolles. Oui. Les mille vaches ici, c'est incroyable.
Il a l'œil, ce monsieur là. On est exactement à un endroit à Cèpes.
Je le sens là.
Il y a un bon petit coin là. Il y a beaucoup de points communs entre la myrtille et le cèpe, puisque les deux sont des productions spontanées, ce qu'on appelle.
Oui.
S'il ne veut pas y avoir de production, il n'y en aura pas. Tiens, on va couper à gauche, on va tomber dans les myrtilles.
Voilà.
Et là, on a une belle vue sur le village.
Oh là là. Oui, parce qu'en fait, c'est un petit hameau là où vous habitez. Hein.
Oui, c'est même un hameau familial.
Ouais, c'est ça.
Là-haut, c'est une zone myrtille. Assez organisée. Parce qu'il ne faut pas que les brebis passent là où il y a les myrtilles, sinon on va les manger.
Donc chacun, je dirais, son étagement. Voilà.
Mais bon, on les fait quand même passer dans les landes. Hein, parce que ça entretient bien, ça nettoie. Voilà, on arrive sur la lande. Là.
Ça y est, donc là, on a vraiment quitté la hêtraie.
On est en fait sur le sommet du caillou, il y a déjà beaucoup moins de terre, le rocher...
Et la fleur en permanence.
Le rocher est très proche.
Oui.
Donc là, on a la bruyère.
Ça y est.
Il va fleurir dans pas longtemps. Et ces petits arbres-là, c'est du sorbier des oiseleurs.
Oui.
Alors ça, c'est un petit peu bigot. Et là, on a déjà des pieds de myrtille. Vous voyez, c'est mélangé. On a la bruyère et la myrtille.
Mm-hmm.
Vous voyez, encore quelques fruits. Là, ça a été cueilli hier. Puisque la cueillette, c'est en fait en ratisse.
Alors, montrez-nous ce que vous avez comme outil.
C'est un petit râteau.
Oui.
Et on ratisse dans une sorte d'auge, qui est une réserve en bois qu'on tient à la main gauche.
Oui.
Et on ratisse dedans. Et en gros, ça fait à peu près comme ça. Oui. Ça, c'est un bruit. Celui qui l'entend,
il sait.
Il saura
que nous sommes en train de ramasser les myrtilles.
Les zones à myrtilles, il faut les entretenir. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on tous les 10-20 ans, on passe, c'est bon, hein.
C'est bien.
On passe le girofle.
Je vous écoute, mais je mange en même temps.
Mais bon, c'est une plante facile quand même. Alors, la myrtille, c'est bien quand ça pousse en plaque. C'est-à-dire, c'est une plante rhizome, il faut que ça se développe.
Oui.
Et si le coin lui plaît, il n'y a que de la myrtille, c'est fourni. Et là, ça devient intéressant. Et sur un endroit bien entretenu, on arrive à un tonnage, là je ne raconte pas de blagues, on arrive à un tonnage d'une tonne à l'hectare. Je donne ce chiffre pour rappeler à ceux qui ont des landes à bruyères et myrtilles, et c'est le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche, les Vosges, les Alpes, il y a des myrtilles dans près de 20 départements en France, qu'il faut maintenir en état ces landes, parce que c'est un plus dans le revenu des agriculteurs. Il ne faut pas laisser perdre ce capital. Ce qui est bien, c'est qu'il y a, un esprit nouveau là, qui souffle chez nos jeunes. Là. Le but, ce n'est pas faire que du pognon. Ça, c'est fini. De toute façon, pour faire du pognon, ça devient difficile.
Oui.
Non, quand on a un environnement qui est suffisamment grand, on n'a pas besoin d'intensifier. Bon, on y va doucement, réfléchit. La formation agricole, elle est comme ça. Hein.
Oui.
On ne vous inculpe pas des techniques, des techniques, des techniques. On fait quand même raisonner sur les écosystèmes. Non, non, c'est bien. Moi, ça me va bien.
Alors, imaginez dans le studio, ici à France Inter, un pot d'un kilo de myrtilles. Là, il y en a un peu partout, mais c'est, ça risque quand même sa tâche. Mais parlons donc avec vous aussi, Brice et Guillaume, quand même des propriétés assez exceptionnelles de la myrtille. Et faites-nous le rapport entre mes petits vaisseaux sanguins et la myrtille.
Je n'ai pas le droit de vous dire que c'est bon pour ceci ou bon pour cela. Ça,
ouais.
On le réserve aux médecins, vous
D'accord.
savez. On dit juste que c'est bénéfique. La myrtille, ça renforce la microcirculation. Donc c'est très bien pour tout ce qui concerne le pourpre rétinien. C'est très bien pour des gens qui ont été opérés de la cataracte. Et les médecins le savent très bien. C'est la provitamine A, ça ne se stocke pas. Mais ça fait effet tout de suite. Par exemple, vous avez besoin de conduire la nuit.
Oui.
Vous savez que vous allez arriver chez vous, vous aurez les yeux rouges.
Comme un lapin.
Un lapin.
Oui.
Prenez du jus de myrtille en partant, prenez avec votre petite bouteille. Vous verrez, je ne vous dis pas, vous verrez.
Et puis vous vous faites arrêter, vous n'avez aucun problème.
Voilà.
Oui,
et alors, il y a une autre propriété de la myrtille qui est excellente aussi, c'est au niveau des tanins, c'est au niveau de l'effet sur l'appareil digestif.
Ouais.
La myrtille, c'est un bactéricide puissant. Mais alors là, il faut manger le pot entier et de préférence sans sucre. On les fait, nous on est en bio depuis plus de 20 ans, et ça c'était un choix éthique. Parce que quand on s'est installé ici, on a dit, mais c'est pas possible un environnement comme ça, on ne va pas le polluer. Hein. On peut monter un petit peu dans la lande.
Ah bah là, on va arriver pratiquement au sommet.
Oui, il y a encore à faire. Hein.
Alors, c'est moi qui suis un peu optimiste.
C'est la lande du Puy d'Espagne. Vous voyez, là, il y a un chevreuil qui est gratté. Il n'y a pas longtemps.
Ah, ça y est.
Ils sont là, les chevreuils. Ça leur plaît. Hein. Moi, j'ai un peu les myrtilles, d'ailleurs.
Parce que les concurrents pour vous, donc un peu de chevreuil. Qui d'autre?
Oui, le concurrent, c'est malheureusement la nature. Ce sont les gelées de printemps et surtout les printemps humides.
Oui.
Ce qu'on appelle le coulage. Floraison qui se font dans mauvaises conditions. Et là, déjà cette année, déjà au mois d'août, on peut savoir s'il y aura de la myrtille l'année prochaine. Pourquoi? Parce que la myrtille fait le fruit sur le bois, sur le rameau, l'année précédente.
Ça me rappelle la vigne, ça.
Par exemple, si vous regardez, on voit les petits bourgeons qui font les points. Et là, ça va être le rameau qui va démarrer.
Ah oui.
C'est l'aoûtage. Ensuite, il y a la floraison fin avril. C'est toujours beau, la floraison. C'est après que ça se passe mal.
Ouais.
C'est-à-dire que toutes les fleurs ne vont pas devenir fruits.
On rappelle quand même que même s'il y a réchauffement climatique, c'est un lieu qui a quand même une certitude, c'est de savoir que l'hiver sera a priori assez rude et assez long.
Oui, ça c'est très important. C'est une plante de montagne, la myrtille. Ça pousse bien et ça fleurit bien sur les versants nord. Et la raison, c'est que ça n'aime pas du tout les montées de sève pendant l'hiver. Si vous avez un radoucissement, vous allez avoir une montée de sève, et ça va geler dessus et là, ça va donner de très mauvais résultats. C'est tellement magnifique que quand l'hiver est tellement long qu'on ne se souvient pas comment c'était avec des feuilles. Puis ça réapparaît, ça redémarre.
Eh ben, un grand merci, Brice. Et puis, très bientôt sur ces monts de lumière.
Et oui, Denis, il faut se revoir dans bien 20 ans pour voir ce que la deuxième génération de ma belle progéniture là, qui s'est installée ici fera.
Ouais.
Mais croyez-moi, ils sauront préserver l'environnement. Parce que toute l'éducation qu'ils ont reçue est basée là-dessus. Et même, ils sont encore plus vigilants que moi, quelquefois.
Il fait du bien, hein, cet homme-là. Donc, Brice de Guillaume, originaire des lieux, agriculteur. Donc, si vous êtes du côté du Sucomet, donc en Corrèze, dans ce très très beau Limousin, donc ce massif des Vonnédières, bah, allez le voir et puis vous serez sûr aussi quand même de la qualité des produits dans ce monde lumière. Moi, je gardais l'origine monde lumière, tellement, tellement c'est beau. Dans quelques instants, ça va être notre agenda avec là aussi pas mal de petites surprises.
Plein de nature et d'environnement, sans se prendre la tête, c'est dans CO2 Mon Amour avec Denis Chessy.
Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle? Avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle? Avant, Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville est tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. La misère de nos gentils petits grands-pères, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent. Qu'on croyait éternel avant. Allez, à la machine.
De CO2 Mon Amour.
Avec tout d'abord le Festival du Livre de Moinsartou, nous sommes dans les Alpes-Maritimes, donc ça a lieu ce week-end. Spécial copinage parce que vous retrouverez Bernard Maris et Thomas Legrand dans ce festival, mais il y aura aussi donc des gens comme Suzanne Georges et puis André Askeri qui est aussi le maire, qui est un homme qui s'intéresse à l'environnement depuis de très nombreuses années. Lui aussi c'est un précurseur avec un ouvrage qui s'appelle « Mon combat contre les empoisonneurs ». Oui, comment les lobbies industriels s'organisent pour continuer à vendre leurs produits toxiques. Donc ce livre d'André Askeri, c'est au Festival du Livre de Moinsartou dans les Alpes-Maritimes. Et vous avez, cette fois-ci dans le Loir-et-Cher, les 19e rencontres de Miancet avec Philippe Desbrosses, qui est un peu l'âme de ces rencontres depuis longtemps. C'est un pionnier de l'agriculture biologique. Alors, des échanges, des ateliers, vous retrouverez d'ailleurs aussi Jean-Marie Pelt. Et le thème de cette année, c'est « Guérir la terre en éduquant les hommes et les femmes ».
Elles sont majoritaires aux entretiens de Miancet cette année. On donne la parole aux femmes. pour qu'elles nous apportent un peu de leur énergie qui est un peu différente de celle des hommes. Non pas pour remplacer les hommes, c'est évident, mais pour un équilibre yin-yang.
Oui, oui.
Et je pense que les femmes portent des valeurs de coopération, de protection, et que l'homme porte plutôt des valeurs de compétition et de concurrence, voire de conflit parfois. Donc on veut essayer de s'en sortir sans trop de souffrance de cette situation cataclysmique planétaire, avec les 7 ou 8 crises convergentes que nous connaissons. Et en fait, notre observation, c'est que c'est plutôt une crise de conscience ou de confiance. On est devenu trop matérialiste et on croit que le bonheur, c'est simplement dans la consommation à outrance. Et je crois que là, nous, on va être dans le partage et dans l'échange. Et c'est ce qui se produit un petit peu partout. D'ailleurs, cette impulsion, elle est planétaire. J'ai avec moi un frère Hubert, qui est le frère qui pilote les petits riziculteurs malgaches. On a la chance de l'avoir, il va nous expliquer comment ces petits riziculteurs sont les plus performants au monde à l'heure actuelle. Donc voilà, on est à la fois provocateurs, mais en même temps, on va essayer de faire ça dans la douceur et dans la tolérance et dans le respect.
Et à Miancey, comme dans de nombreux coins de France, eh bien, là aussi, on ouvre sur d'autres possibles. Le répondeur, hein, c'est le 01 56 40 40 35. Hein, 01 56 40 40 35, le répondeur de CO2 Mon Amour. Au rayon librairie. Ah, bah tenez, là j'ai un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Delachaux et Niestlé, qui s'appelle Des fraises en hiver et autres besoins inutiles de notre alimentation. Alors, il est signé Claude-Marie Vadreau, qui est un homme qui, un formidable reporter et enquêteur, s'intéressant à ces problèmes économiques. Depuis très longtemps, la Russie également. Et là, on se rend compte que ces fameuses fraises en provenance de l'étranger, hein, je ne parle pas de la France, mais de l'étranger, Andalousie en particulier, c'est une des productions peut-être les moins durables.
C'est pas durable et pourtant ça dure depuis pas mal d'années. D'abord, ces fraises poussent en hiver, y compris en Espagne, dans le sud, en Andalousie. On met les plants de fraisiers dans des frigos pour leur faire croire que c'est l'hiver et le fraisier étant naïf par nature, il croit que c'est l'hiver et quand il est planté au mois d'octobre, eh bien, il commence à faire des fraises sous la serre. Ouais. Déjà, c'est un vrai problème. Mais pour qu'ils tiennent le coup, on met un certain nombre de produits pour désinfecter le sol, y compris la chlorpicrine, qui est un gaz asphyxiant utilisé à la fois pendant la Première Guerre mondiale et par les adjoints de Saddam Hussein pour estourbir les Kurdes il y a pas mal d'années. C'est une production hors sol. Donc, ça produit une chose qui s'appelle fraise, qui a tout l'aspect de la fraise, mais qui n'a absolument pas le goût de la fraise.
Élaboré donc en laboratoire, et en fait, c'était une demande, ça vient des États-Unis, et c'était aussi une demande de la grande distribution française et européenne.
Pour servir de produit d'appel, parce que cette fraise, à la regarder, elle est absolument superbe, sauf qu'elle est un peu blanche sur le dessus, parce qu'elle n'a pas fini de mûrir sur place. Et qu'est-ce qu'ils ont travaillé? Ils ont travaillé la couleur et le parfum. Dans une grande surface, au mois de janvier, ces fraises dégagent un parfum trompeur. Parce que si vous essayez de croquer dedans, à mon âge, on finirait par y laisser ses dents. Hein.
Rajoute du sucre parce qu'elles n'ont pas de goût.
Ah oui, là, quand on a tourné un film là-dessus, et j'ai essayé d'écraser la fraise dans du sucre, c'est impossible. Ouais. On n'y arrive pas, elle est dure. Donc c'est un problème localement. On exploite des gens du Maroc, Bulgarie, Roumanie, pour la cultiver. Puis après, on les renvoie chez eux, une fois qu'on les a mal payés. Et en plus, après, il faut la transporter. Ça fait 2000 km de parcours pour arriver en France.
Et vous avez calculé, ça fait à peu près 20 000 poids lourds par an, rien que pour cela. Et dans votre film que vous aviez réalisé, La rançon de la fraise, on se rend compte que c'est un sujet tabou, parce qu'en fait, même dans les grandes surfaces, chez Auchan et ailleurs, on avait refusé que vous puissiez filmer.
Ah oui, on voulait tourner, poser des questions, quelles que soient les réponses. Impossible, ça. Je me suis fait jeter, moi, d'une grande surface, Carrefour, pour avoir voulu faire des photos des paniers de fraises au mois de février.
Alors, manger bien sûr des fraises localement, nos fraises françaises. Ce livre va plus loin. Vous ouvrez par la fraise, mais en fait, le sous-titre, c'est « Autres besoins inutiles de notre alimentation ».
Bien sûr, la fraise, elle passe par Perpignan. Mais si on regarde ce qui se passe à Perpignan, à la fameuse plateforme privée, eh bien, il y a 400 000 poids lourds qui circulent par an pour transporter des poivrons, des tomates hors saison, des courgettes, des concombres, et je dois en oublier un peu. Il faut dire que hors d'Europe, nous achetons, les Français, 70 000 tonnes de concombres.
Mais alors, on est presque en dépendance de beaucoup de produits agricoles que l'on pourrait, bien sûr, produire en France.
Bien sûr, parce que pourquoi aller chercher les concombres ailleurs? Tout jardinier amateur sait que faire pousser un concombre, il n'y a rien de plus facile.
Oui.
Une courgette, il suffit de la laisser courir dans le jardin. Mais malgré tout, eh bien, on va chercher au loin des produits qu'on pourrait faire chez nous. Ce n'est pas du nationalisme, c'est une absurdité écologique. Je n'ai rien contre l'importation des bananes, des oranges et des ananas, qui ne représentent pas grand-chose d'ailleurs, finalement, parce que pour l'instant encore, malgré l'évolution du climat, on n'est pas encore à produire ces fruits et ces légumes. Mais c'est ça, il y a une recherche de rentabilité poussée par les grandes surfaces pour nous faire consommer des choses hors saison.
Et vous pointez vraiment à la naïveté aussi que nous avons en tant que consommateurs, ou bien on va dire la négligence, peu importe, mais c'est quand même derrière tout ça, le fait d'aller remettre le nez dans son assiette, de s'interroger sur ses achats. Bien sûr, on parle souvent de relocalisation, on parle des AMAP, etc., mais on peut faire bouger les choses si on le souhaite.
Bien sûr, il suffit de regarder autour de soi, dans un grand magasin, si on est obligé de les fréquenter, sur un marché parisien ou de province, et choisir ce qui vient de France et même affiner son choix en essayant de prendre ce qui vient de la région,
alors,
qui n'est pas plus cher bien souvent.
Claude-Marie Vadreau, quand on dit élaborer en ou bien élaborer à, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ah, ça c'est la plus belle arnaque légale du temps. Vous élevez un porc en Bretagne, hein, il y a 70% des porcs français qui sont élevés en Bretagne, oui. Laquelle Bretagne produit 22% de la charcuterie française. Donc, il y en a qui échappent au massacre.
Ah oui.
Donc, ces porcs, ils partent vers Bayonne, vers Lyon, vers d'autres endroits où on les découpe. On ne dit pas qu'ils viennent de la région de Bayonne ni de la région lyonnaise. On met sur l'étiquette, regardez, il suffit de retourner la barquette chez le marchand, élaborer en ou élaborer.
Ah, c'est-à-dire qu'ils ont été transformés, découpés
Il suffit d'ajouter un peu de sel et de poivre.
Ah oui, d'accord.
Pourvu qu'ils subissent une petite action dans l'endroit où ils vont être nationalisés.
130 000 tonnes consommées de fraises en France, 80 000 apportées à contre-saison, d'où cet ouvrage donc, signé Claude-Marie Vadreau. Des fraises en hiver, ce qui nous fait bien réfléchir. Alors on va se dire à Paris, qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Il y a les moineaux, les pigeons? Oui, bien sûr, mais si je vous dis abeilles, déjà ça on le sait, évidemment ils sont réfugiés, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Pas à Paris, maintenant ça y est, c'est terminé depuis longtemps. Faucon pèlerin, le cétoine doré, les lapins, les renards. Et donc Paris la belle, Paris la rayonnante, reconnaît... Que connaît aussi donc un regain au niveau des animaux. Et notre partenaire et l'excellent mensuel Terre Sauvage donc vous propose ce mois-ci un safari donc dans Paris. Voilà, il n'y a pas que la Tour Eiffel, il n'y a pas que l'Arc de Triomphe. Et c'est très intéressant. D'abord, il y a un regard de photographe qui est quand même Laurent Gesselin qui est très fort. Et on retrouve cette exposition du côté du Parc Floral aussi. Donc ce Paris sauvage sous les pavés, la vie sauvage. Et oui, ce n'est pas toujours la plage, c'est Paris, c'est dans le numéro d'octobre de Terre Sauvage. Et nous allons repartir maintenant en province avec les conservatoires régionaux et départementaux. Vous en avez une trentaine qui gèrent en France 2000 sites et 120 000 hectares. Mais il ne suffit pas simplement de dire qu'ils sont protégés, ces sites. Il faut aussi les entretenir, les gérer, faire des travaux pour maintenir la biodiversité. D'où Christophe Lépine, les chantiers d'automne. Alors on demande quoi à qui, Christophe Lépine?
Sensibiliser effectivement les gens sur la nécessité de gérer la nature, de l'entretenir. Alors ça passe par des chantiers avec des entreprises, puisqu'on fait travailler des entreprises. On peut aussi travailler avec des étudiants, des lycées agricoles, ça fait partie de leur formation. Et puis cette année, on a mis aussi un thème sur l'insertion. Par exemple, dans la Drôme, c'est l'association Drôme Insertion qui travaille avec le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels sur un petit pan de montagne pour réouvrir les milieux, pour redonner de la lumière à des endroits où les petites plantes elles en ont besoin pour se développer. Et puis après, il y a aussi tout l'aspect bénévole. C'est-à-dire qu'on incite aussi dans nos nombreux conservatoires d'espaces naturels à venir participer à des chantiers nature. Alors je ne sais pas, par exemple, en Bourgogne, on va essayer d'enrayer l'invasion des pins qui empêche la lumière de s'épanouir et les petites orchidées après de fleurir. En Basse-Normandie, ce week-end et le week-end prochain, et de cerisier, on va essayer de remettre un peu de lumière pour une mare, pour les plantes, les libellules et tous les animaux, etc., qui vivent là. Et puis, par exemple, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, on va s'occuper de restaurer une roselière et même de faire une petite réfection de toiture sur une petite ferme qui est là-bas.
C'est ce qu'on appelle vraiment une démarche volontaire éco-citoyenne.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment sensibiliser tout le monde à la nécessité de préserver la nature, puisqu'en fait, si on doit entretenir cette nature, c'est parce que souvent elle a été façonnée pendant des siècles et des siècles par l'activité humaine, et que c'est l'abandon de cette pratique humaine comme l'élevage qui aujourd'hui met en danger les richesses de la nature en France.
Fin de cet agenda, on le retrouvera la semaine prochaine, le répondeur donc 01 56 40 40 35. Un grand merci à Michel Thomas, à Alain Anstam qui a donc mixé en direct le reportage sur les monnaies d'hier qui était réalisé par Valérie Ayestaraï, je n'oublierai pas Marion Lelay et Jean-Christophe Pinaza, Anne Gouzon qui nourrit donc les sites de CO2 Mon Amour avec aussi ce site tout à fait intéressant, donc l'actualité de l'environnement en temps réel, merci à elle. On se retrouve la semaine prochaine, alors il y aura Jean-Marie Pelt, il y aura un reportage dans l'Isère, on va aller sur les bords des routes, là aussi c'est très intéressant d'un point de vue environnemental et écologique. On en parlera avec Jean-François Noblet. Et puis, il y aura une belle actualité avec Nathalie Fontrelle. Possibilité pour vous de podcaster cette émission une semaine, de la réécouter quatre semaines. Il n'y a plus de rediffusion de nuit. Et puis, je retrouve avec beaucoup de plaisir donc demain, 19h54, après les petits bateaux, ce sera la tulipe, mon petit loup.